Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, non, vous ne trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
I'm a man! Well, nobody's perfect.
Qu'est-ce que c'est fait? C'est pas quoi faire!
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Si je vous disais qu'American Fiction ajoutait au catalogue Prime Video dans l'anonymat le plus total et pourtant lancé dans la course aux Oscars, qu'À la joie n'est pas tout à fait une comédie romantique et H&M Pussy, le contraire d'un film porno, qu'Agnès Jaoui peut en cacher une autre dans la vie de ma mère et qu'il n'y a aucun lien de parenté avec comme un fils le nouveau Nicolas Boukrieff. Ce soir, les films au programme ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être et les séries non plus. Clive Owen se confond avec Humphrey Bogart dans la suite du Faucon Maltais Mr. Spade et The Vince Staples Show brouille les pistes de l'autofiction. Mais si les apparences sont trompeuses, nos chroniqueurs, eux, ne jouent pas double jeu avec leur avis critique, et s'ils ne brillent ni sur le petit ni sur le grand écran, c'est qu'ils sont fidèles au poste de radio. Extérieur Nuit, c'est parti.
Breaking news.
Et c'est toi, Rita, ce soir, qui nous donne le box-office de la semaine.
Oui, oui, oui. Un box-office qui est sans surprise mené par Dune, partie 2.
Surprise!
Exactement, avec 1,4 millions d'entrées en France pour une première semaine. C'est assez dingue. Après, ils ont 994 copies. Bon, je pense qu'ils ont globalement tous les cinémas de France à ce stade. Mais grand bien leur fasse. Ensuite, on a, dans numéro 2, vous ne nous écoutez pas, Une vie Bob Marley. Non, ah non, merde, pardon. Une vie puis Bob Marley. J'ai cru lire Une vie Bob Marley, One Love. Non, ce sont deux films différents.
Une vie, on en a pas parlé.
Une vie qui ne perd que 28% de son public pour atteindre qui fait donc 320 000 entrées cette semaine et qui atteint presque 800 000 entrées en
et
deux semaines.
Et tu sais pourquoi? Parce que la durée de la vie s'allonge.
Oh bah c'est très bien dit, bravo Elisabeth. En numéro 3 on a Bob Marley, One Love, qui cumule à 1,5 million d'entrées avec 300 000 entrées en troisième semaine. Qui sont ces gens? Pourquoi? Voyez autre chose. Non mais là rien ne va dans ce top. En 4 on a Maison de Retraite 2, que je ne comprends pas pourquoi il ne s'appelle pas Maison de Retraite. Ça aurait été un meilleur titre. Ensuite on a Cocorico, parce que... Oui, et ensuite on a Chien et Chat, et ensuite on a Le Dernier Jaguar. Vraiment, c'est le pire box-office, on est dans la pire période de l'année, les gens qui ont des bons films attendent Cannes pour voir s'ils peuvent les sortir à Cannes, et les gens qui ont des mauvais films les sortent maintenant. Donc c'est pas un super box-office, et en plus ça fait pas tant d'entrées que ça pour la France, donc on n'est pas sur un mois de mars qui commence très bien, je vais pas vous mentir.
Et on se demande qui sont ces gens et quels sont leurs réseaux. Laurent, toi tu vas nous parler du 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
Alors tout d'abord, je voulais préciser que les mauvais films sortent à Cannes aussi, hein. On en voit quand même un certain nombre, n'oubliez pas. Le 14h de Paris, il commence par La Salle des Profs, un film que j'aurais pas vu en cette place, mais qui fait quand même 1192 entrées pour 18 copies, donc une grosse moyenne de 66.
Mais il a bonne presse, hein.
Ouais, bonne alors presse. Que c'est un film allemand.
Personne ne l'a vu. Oui, tout à fait, il représente l'Allemagne aux Oscars et on en parlera
comme
probablement la semaine prochaine.
Aux Oscars, tous les films nommés à l'Oscar du film étranger sont allemands, à peu près.
Effectivement.
Voilà. Bon, après, je vous laisse. Insérer comme vous voulez des blagues de gens un peu de droite parce que c'est des profs qui ont le temps d'aller au cinéma, enfin bref, des trucs comme ça, si vous avez que ça à faire. En deuxième place, Boléro, le film sur la vie de Ravel, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui fait 1069 entrées pour 21 copies, quand même beau démarrage aussi. Le dernier film de Anne Fontaine, c'était pas quelque chose auquel je m'attendais forcément parce que la bande annonce m'a donné un peu le cancer, mais la musique, enfin le cinéma aime bien la musique manifestement, peut-être que ça poussera des gens à écouter le Ravel, peut-être qu'on en parlera un jour, qui sait. En troisième position, La vie de ma mère, un film dont on vous parle ce soir, qui fait quand même 515 entrées pour 14 copies, donc une moyenne très, très honorable de 37, ce qui est un démarrage pas trop mal, même si c'est vrai qu'il n'arrive qu'en troisième position. Le perdant de la semaine, c'est un film qui a l'air extrêmement étrange, qui est le dernier film de Amos Gitai, qui est passé à Cannes, qui s'appelle Shikun, qui a l'air de faire...
Je l'avais mis au programme.
Mais c'est une ressortie, non?
Ah non,
j'ai pas l'impression.
Il était à Cannes, mais c'est.
Ah, okay.
Il était à Berlin, mais c'est une première sortie.
Aucune pub.
Et il fait 25 entrées pour deux copies, donc une moyenne de 13.
Pas mal.
Pas mal pour un perdant de la semaine, ce qui est peut-être pas top quand même pour un Mousse Guitaille.
Bah ouais.
Peut-être que le film est trop chelou pour ça, je ne sais pas. Je vous laisse vous intéresser à son cas et potentiellement aller le voir.
Et peut-être en parler la semaine prochaine, qui sait? On va maintenant parler du premier film ce soir. Alors c'est un film qui en France sort sur Prime Video, mais qui est donc lancé dans la course aux Oscars avec quand même 5 nominations. C'est American Fiction de Cord Jefferson. On écoute la bande-annonce.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
Yo, Sharonda! Girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around.
Rita, c'est toi qui nous a signalé la présence d'American Fiction dans les tréfonds de la plateforme Prime Video.
Eh bien oui, parce que alors le film a beaucoup de très bonne presse aux États-Unis, il est nommé pour 5 Oscars comme tu le disais en intro, et c'est un film que Amazon Prime en France a décidé de sortir donc uniquement sur Prime, il sort pas en salle du coup, et sans faire aucune presse ni rien, le film a juste été lâché lâchement comme ça sur Amazon Prime, ce qui est complètement insensé, surtout pour un film de cette facture et pour un film qui est aux Oscars, encore une fois on le rappelle, insensé qu'il ne sorte pas en salle. Voilà la tristesse dans laquelle on se retrouve quand MGM est possédé par Amazon. Bref, autre sujet. Ce soir, on parle de deux œuvres qui, je trouve, sont vachement en dialogue, qui toutes les deux sont des satires qui exposent une version de l'expérience d'être un homme noir et d'avoir réussi aux États-Unis, particulièrement à travers la culture. Quel espace on peut se créer, quel espace on peut occuper. Donc, on parlera tout à l'heure de Vince Staples. Et là, pour le coup, dans American Fiction, on suit Thelonious Monk, qui est un auteur et un enseignant, et qui galère parce que ses bouquins sont hyper intello, et que l'industrie du livre veut plutôt des livres un peu putassier sur l'expérience violente d'être noir. Donc des livres qui parlent de vivre dans un HLM et survivre avec des parents dans la drogue et les armes et... Bref, le racisme, des trucs hyper intenses. Et donc lui, c'est pas du tout le genre de bouquin qu'il écrit. Et il a du mal à vivre de ses bouquins, de ce fait. Ça ne l'intéresse pas du tout d'écrire ce genre de livre. Et il trouve même ça contre-productif. Et parfois, allant dans le sens de certains stéréotypes racistes. Pour lui, c'est aller dans le sens de certaines personnes blanches qui ont besoin de se rassurer en disant que le racisme, c'était avant et qu'aujourd'hui, tout va mieux. Enfin bon, il écrit alors sous un pseudo un livre ignoble un soir où il a un peu bu. Et... qui va dans le sens de ce genre de bouquin, et miraculeusement, le livre se fait optionner par une énorme maison d'édition qui fait une grosse campagne pour la sortie du bouquin, et donc commence alors une très grande satire sur les Américains blancs un peu progressistes qui ne sont progressistes que dans leur apparence, et leurs prétendues luttes antiracistes sont pas ultra développées non plus. Alors moi, c'est un humour dont je suis très cliente, que j'ai trouvé très drôle. J'ai vraiment eu d'énormes fous rires à travers le film sur certains moments, particulièrement au début. Je trouve que c'est un dispositif donc forcément qui est assez original, donc forcément passer le moment où on nous a expliqué qu'est-ce qui va se passer, donc le fait qu'il va écrire le bouquin dont il cauchemarde, disons, passer ça, en fait le film se fond dans un drame social beaucoup moins intéressant à mesure que l'intrigue avance, et du coup la satire bat de l'aile de ce fait, ce qui est un peu dommage. Je suis très fan de ce casting, notamment de Jeffrey Wright qui joue à merveille. Ce petit con est super intelligent, il a une voix moi personnellement j'aimerais beaucoup qu'il fasse de la narration de bouquins, j'écouterais même s'il lisait l'alphabet, et du coup je trouve ça dommage parce que quand le film perd du régime, on a l'impression de voir précisément ce qu'il dénonce, à savoir une satire un peu réchauffée faite pour rassurer les blancs plus qu'autre chose, qui va pas jusqu'au bout de sa critique, et c'est dommage parce qu'on sent qu'au départ c'était là pour ça. C'est adapté d'un livre, et je pense que le livre doit être beaucoup plus intense et beaucoup moins complaisant envers les personnes blanches, à mon avis, que j'ai très envie de lire. Du coup, j'ai aussi très envie de voir le film Plantation Annihilation qui est présenté dedans, si vous comprendrez quand vous verrez le film, qui a l'air 20/20. Enfin voilà, il n'y a aucun effort de mise en scène, aucune proposition visuelle originale, c'est vraiment filmé comme une série moyenne des années 90, et c'est trop dommage, surtout quand t'as un casting aussi sexy que celui qu'il y a dans ce film. J'adore, je les vois hocher la tête devant moi, donc j'ai l'impression de dire que des choses bien, c'est cool. En tout cas, American Fiction, pour moi, c'est clairement à voir. C'est un des films, en plus il est nommé aux Oscars, voyez-le par culture pour le plaisir de voir s'il mérite ou pas de gagner face à qui il est. C'est très dommage que ça vaille pas jusqu'au bout de cette satire, mais c'est quand même un casting assez fort et surtout des blagues assez hilarantes et poussives pour que ça vous donne envie de suivre quand même cette histoire.
Laurent disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas des bons films forcément à Cannes, aux Oscars non plus. Manon, tu as validé la critique de Rita, tu es d'accord en tout point sur cette American Fiction ?
Ouais, Complètement. Yes. moi, je vais peut-être faire un petit aparté sur. Donc, c'est le premier film de Cod Jefferson, qui est en fait un scénariste qui a travaillé sur plein de choses de grande qualité, comme Master of None, The Good Place, Watchmen, et il a également été consultant sur Succession. Donc, en fait, je pense
c'est un producteur de série.
Voilà. Je pense que s'il a l'air d'être assez picky sur les projets qu'il choisit, je pense qu'il a quand même une certaine expérience hollywoodienne en tant que qu'auteur noir, et je pense que ça lui fournit aussi le retour d'expérience nécessaire et la matière en fait pour porter à l'écran cette histoire qui est l'adaptation d'un roman qui a 20 ans. Ouais. C'est quand même fou, et en fait c'est toujours hyper pertinent et accurate. Et donc je pense qu'en fait le personnage de Jeffrey Wright, c'est un peu à mon avis son double un peu de fiction. Je pense qu'il fait un peu via ce film un peu comme son auto-analyse, et je pense que lui aussi parfois il a peut-être un peu cédé à ces pièges identitaires de l'industrie du divertissement, mais je trouve que ça rend tout ça d'autant plus passionnant. Comme disait Rita, enfin c'est une pure satire, donc les ficelles parfois sont effectivement un peu grosses, mais bon, ça tombe quand même plutôt juste. Je pense qu'il peut ça peut être vu peut-être comme un cousin un peu lointain de Tout simplement Noir, qui était sorti chez nous, comédie française, ouais. Mais adapté au système de pensée américain, aux problématiques américaines. Mais il y a vraiment au milieu de ce film un personnage noir très complexe, qui n'est pas toujours très aimable, qui est solidaire de vraiment aucune cause. Et je trouve que ça, on le voit quand même très peu au cinéma, donc c'est cool à voir. Moi, j'aurais voulu que ce soit un peu plus mordant quand même. Je trouve qu'effectivement, tous les drames, genre ouais. Familiaux, périphériques, en fait je pense que ça permet d'offrir un peu d'épaisseur psychologique à ce personnage, mais moi je trouve que du coup ça dilue un peu tout le propos du film, qui est hyper pertinent et hyper cool. Il a 5 nominations, je pense qu'il aura rien en vrai, enfin pour le coup c'est quand même
le
pas
scénario, il y a des chances hein, parce que en scénario adapté il est pas face à des enfin Oppenheimer à la rigueur.
Il y a Oppenheimer quand même, ouais.
Ah non, c'est vrai, il y a Killers of the Flower, j'ai rien dit.
Non, non, je pense,
pardon, mais Oppenheimer, je sais pas si le scénario mérite un Oscar.
Mais ça fait 3 films qui gagnent. Ça fait 3 films dont les scénarios méritent pas l'Oscar.
Voilà, c'est clairement. Ça.
Non, là vraiment, je vois pas ce qu'il peut avoir, mais en tout cas, 5 nominations aux Oscars, c'est quand même cool quand vraiment cette espèce de bien-pensance blanche que le film dénonce, c'est exactement ce qui drive quand même beaucoup cette cérémonie, donc je trouve ça assez, assez marrant. Après, je sais pas, le fait que voilà, Amazon l'est complètement anonyme, enfin vraiment n'ait fait aucune promo, n'ait fait aucune stratégie marketing autour de ce film, je sais pas ce que ça dit, enfin si c'est juste parce qu'ils se sont dit, c'est pas pour nous, c'est vraiment des problématiques américaines qui nous vont pas trouver leur public français, ou si ça dit quelque chose de en France, on a peut-être un petit problème pour faire un peu notre auto-analyse. Je sais pas, pourtant je pense que ça peut s'appliquer à plein de à un genre de cinéma qu'on fait beaucoup chez nous aussi sur les banlieues et tout, donc c'est vraiment dommage que enfin il faudrait que ce film soit plus vu, parce que je pense que ça peut ouvrir plein de pistes de réflexion. Mais par contre, je trouve que la presse fait bien son taf justement pour essayer de parler de ce film un peu et tacler Amazon. Il y a plein de critiques assez bonnes du film, et à chaque fois tout le monde y va de son petit tacle sur Prime Video, donc je trouve ça cool.
Et on voilà. S'en prive pas non plus en tant que critique. Laurent, cette American Fiction, t'as laissé un tout petit peu plus mi-fig mi-concombre.
En fait, c'est marrant parce que je suis globalement d'accord avec ce que vous dites, mais sauf que je pense que vous avez oublié un élément qui est quand même très important, c'est que ce n'est pas une satire en fait sur le milieu culturel et le rapport avec la culture afro-américaine, tout ça. Matinée de drame familial un peu triste, c'est l'inverse en fait, et c'est un énorme problème. C'est-à-dire que l'histoire familiale en fait tout autour finit par prendre en fait la majeure partie du film.
Et que
en effet ça dilue le reste, mais en fait c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que on est à un stade où on passe notre vie à s'intéresser, enfin on passe notre temps à s'intéresser à l'espèce de vie qui est en réalité assez, assez bien vue, je trouve, qui est assez loin des clichés de ce qu'on imagine des Afro-Américains, parce que ce sont des gens qui clairement ont de l'argent, ou en tout cas enfin, qui en ont eu et qui ont plutôt des revers de fortune, mais enfin qui ont on va dire un gros capital social et culturel, qui clairement voilà, sortent pas de nulle part et qui du coup montrent un peu ce truc qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui existe historiquement depuis assez longtemps en fait aux États-Unis, de ces entre guillemets Afro-Américains qui réussissent, et il y en a quand même depuis un bon moment. Et c'est pas mal, mais sauf qu'en fait toute cette histoire familiale finalement extrêmement classique apporte à peu près rien au moulin du cœur du film en réalité, qui est en vrai, je suis d'accord, un pitch brillant et qui est assez hilarant par moments, avec vraiment des scènes extrêmement bien réussies, où même les seconds, même les troisièmes rôles du film sont excellents. Enfin, il y a un vrai travail sur le casting, on a des vrais très beaux moments. Mais en fait tout ça est complètement, je trouve, occulté par le reste, qui fait que le film est globalement assez ennuyeux et même parfois très gênant, alors qu'il aurait dû être je pense, une des meilleures comédies de ces 10 dernières années. C'est pour moi, en fait, c'est l'histoire d'un énorme gâchis. Et je trouve ça quand même extrêmement dommage d'en arriver là, parce que ça aurait pu être vraiment génial. Donc forcément, moi, je reste sur ma faim parce que je vois le potentiel du truc et je me dis, merde, c'est quand même con de rater si près du but alors que tous les éléments sont là.
C'est un film de scénariste qui pêche par son scénario. Donc.
Ouais, c'est quand même triste. Et peut-être aussi pour le... C'est quand même très ricain. Il y a quand même aussi un autre truc, c'est que je pense que si on connaît pas bien la culture américaine et que globalement les ricains, on en a rien à foutre, je suis pas sûr qu'on arrive vraiment à tout capter de ce qui se passe dans le film. C'est pour ça que moi, je suis pas très surpris qu'il sorte pas beaucoup en France. Après, je sais pas quelle distribution il a à l'international. Je sais pas s'il est sorti au cinéma, s'il y a eu un gros truc.
Aux États-Unis, oui, il est sorti au cinéma, mais un petit peu en mode 2 semaines pour qu'il puisse être éligible aux Oscars et ensuite ils l'ont foutu sur Prime.
Ouais, ça peut se comprendre, mais c'est un petit peu curieux. Mais par exemple, pour la France, je peux comprendre un peu quand même, parce que pour moi, ça reste quand même un public un peu averti. Bon, de toute façon, je suis pas certain. Moi, je recommande pas forcément aux gens de voir ce truc, sauf en effet pour les quelques très bonnes scènes, ça peut valoir le coup, mais malheureusement, c'est quand même beaucoup de temps perdu.
J'adore le fait que tu dises toujours ce truc quand on parle de film. Peut-on ou de
quand télé, ils sont quand ils sont bien quand ils sont bien, j'essaie d'utiliser des
plus le mot termes. Film. tu lui accordes pas ce statut, tu es dur quand même.
Non, faut pas exagérer. Ça reste quand même pas désagréable et pas mauvais, mais juste tellement de potentiel.
À mon sens, on enlève 45 minutes. Du côté social, on ajoute 15 minutes et de satire et ça fait un film d'une heure et demie parfait.
C'est génial.
Voilà.
D'accord.
Bon, et bien vous regardez le film et puis vous avancez certains passages. C'était American Fiction, le premier film de Cord Jefferson. On va maintenant s'intéresser à un autre film qui n'est pas sorti au cinéma, qui est disponible sur la plateforme Arte. C'est À la joie de Jérôme Bonnel.
T'en as trouvé ?
T'en veux ? Ah, puis il faut que tu nettoies tes courses aussi. Hein. Enfin, je veux dire les emballages.
La fermeture, à compter de ce soir, de tous les lieux recevant du public...
Tout à l'heure, je voulais te demander ton numéro de téléphone, puis j'ai pas osé. Je me suis dit que ça pourrait être bien de continuer la conversation. Vous habitez ensemble? Ouais.
Et toi, tu vis seul?
Oh oui, oui. Et qu'est-ce qu'il fait en Espagne?
Écoute, j'étais pas tout dit, je suis pas chez mes parents, là. Je suis chez Hortense.
L'idée, c'est qu'elle n'est pas liée simplement à la mondialité.
À la joie, donc encore un film qui n'est pas sorti au cinéma, nouveau film de Jérôme Bonnel que pourtant on connaissait pour des films de cinéma. Alban, qu'est-ce que ça raconte et qui est Jérôme Bonnel ?
Jérôme Bonnel, mauvais départ. Jérôme Bonnel, c'est un réalisateur français qui a commencé au début des années 2000 avec notamment Les yeux clairs ou Le chignon d'Olga et qu'on a vu plus récemment dans A3 on y va avec Félix Moati et Anis de Moustier. Et son dernier film, c'était Cher Léa, je crois, qui est sorti en salle il y a 2 ans. Et il avait déjà fait une série pour Arte avec Emmanuel Devos qui était sorti il y a 2 ans, qui s'appelait Les herbes hautes. Les herbes hautes. Et là, il revient avec ce petit film. Sur Arte, qui raconte l'histoire de Sam et Vera, donc deux jeunes adultes qui se rencontrent la veille du confinement pendant le Covid à Paris et qui décident, même s'ils ne se connaissent pas et malgré leurs obligations respectives, je ne sais pas si on peut dire ça, de se confiner ensemble et de vivre une histoire d'amour tous les deux à Paris, dans cet appartement. Alors c'est un film qui est assez drôle.
Les hautes herbes.
Les hautes herbes. J'avais dit quoi ? Les herbes hautes ?
Les herbes hautes, okay. Tu étais presque.
et c'est un film qui est assez rigolo parce que déjà, je trouve que sur la trame de fond du film, qui est le Covid, qui est le confinement, c'est assez rigolo de voir quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça et d'oublier des gestes, oublier des mots, des phrases qu'on pouvait dire, laver les courses, applaudir le personnel soignant, c'est vraiment des choses qu'on avait oubliées. C'est rigolo de le vivre comme ça. Surtout que Jérôme Bonnel n'en fait pas non plus des caisses, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une trame de fond, mais il n'en fait pas son sujet, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et voilà, moi, c'est un film j'ai commencé juste par les petits bémols que j'ai, c'est-à-dire je trouve que le récit est un peu trop fléché, on s'attend quand même à ce qui va se passer dans l'histoire, on sait que c'est éphémère comme histoire d'amour, on sait que ça va s'arrêter forcément soit au moment du confinement, soit ils vont se séparer autrement, mais voilà, le film, je l'ai trouvé sincère, j'ai trouvé bouleversant par moments. Je trouve que les deux personnages, le personnage de Vera qui est interprété par Amel Sharif et le personnage de Sam qui est interprété par Pablo Poli sont vraiment mignons, tu crois à leur histoire d'amour, c'est des personnages qui sont vraiment bien écrits, c'est des personnages qui moi m'ont vraiment beaucoup ému et je trouve ça intéressant aussi dans le propos du film, c'est-à-dire que on a une sorte de deux étrangers qui se rencontrent et qui vont tomber amoureux. en ayant comme reflet uniquement les yeux en fait de l'autre, et je trouve que c'est beau la manière dont cette relation va se construire et va se construire à travers l'autre et à travers le regard que chacun va porter sur l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment très malin, la manière dont c'était pensé et réalisé par Jérôme Bonnel. Je trouve qu'il y a vraiment un effort qui a été fait dans le dévoilement des sentiments, mais aussi dans le dévoilement du désir dans les scènes de sexe. Il y a vraiment un effort qui a été fait par Jérôme Bonnel, notamment sur les scènes de nu, que j'ai trouvé assez intelligente. Quand on voit le personnage de Sam, on voit aussi le personnage de Vera et vice versa. Il y a des scènes qui sont parfois osées, même pour un film de télévision, même s'il y a une petite introduction au début qui nous prévient de ce genre de scène. Mais je trouve que c'est jamais gratuit, en tout cas, et c'est tout, ça aide à comprendre leur histoire, à rentrer dans leur histoire et à comprendre un petit peu plus la complexité de chacun des deux personnages qui sont vraiment très différents. Et je trouve que ça fait du bien de voir un film avec des acteurs dont on n'a pas l'habitude de voir et qui fait vibrer notre petit cœur, et je pense que c'est pour ça qu'on va au cinéma, en tout cas c'est pour ça que j'y vais. Donc,
et effectivement, Mad Sheriff, moi je l'avais jamais vu, et vraiment découverte.
Ah ouais, grosse découverte.
Manon, est-ce que toi aussi tu as été émue, bouleversée par ce À la joie?
Oui, moi je le regardais d'abord parce que c'était une comédie romantique avec Pablo Poli, je l'avoue, parce que vraiment je pensais n'avoir vraiment pas envie de voir un film sur le Covid, sur le confinement, encore moins une comédie romantique de confinement. Mais en fait non, c'est vraiment super. Je trouve que le huis clos, qui est toujours très un exercice qui est toujours un peu délicat, là je le trouve vraiment hyper bien géré. Je trouve qu'on a vraiment la sensation d'être avec eux. Enfin, je trouve que rarement je me suis autant projetée dans une pièce avec des gens. On a vraiment, je trouve, cette sensation de proximité. Et je trouve que le film retransmet aussi super bien comment les choses à cette période, elles ont été très rapides, elles se sont vécues parfois de façon très intense, et en même temps ça reste crédible, je trouve. Comment les petits prétextes, les petits mensonges que cette période de confinement a autorisé, que tout le monde a parfois utilisé, comment là elles servent aussi bien le scénario, bah elle notamment pour genre éviter de rejoindre son mec, parce qu'elle a un mec au début du film. Et je trouve qu'elle, à l'inverse de ce que tu disais, Alban, je trouve que le Covid n'est pas juste un prétexte à la comédie romantique. Enfin, je trouve que c'est quand même un film qui parle bien du Covid.
J'ai une toile de fond.
Ouais, mais
on sent le temps qui s'arrête autour d'eux.
Oui,
ouais, je trouve que c'est quand même bien. Enfin, je trouve que le scénario en joue quand même de ce Covid. Il n'est pas juste dans le fond, justement. Il arrive à s'amuser aussi. Enfin, c'est un film très triste, en fait, au final, et avec une fin très tragique. Mais il arrive quand même à s'amuser de pas mal de petits trucs de cette période, sur le gel hydroalcoolique, la scène sur la queue à la pharmacie. Enfin, moi, elle m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc, vraiment, je trouve que vraiment ça s'imbrique super bien. Les deux acteurs sont vraiment très bien castés. Je trouve que Pablo Poli, dans ce rôle de mec charmant, un peu maladroit et tout, enfin en tout cas au début du film, après on comprend un peu plus sa personnalité, il est vraiment parfait. Ils ont une alchimie tous les deux genre sensuelle qui est vraiment très très belle et très bien filmée. Elle est vraiment bien. Voilà, enfin moi je trouve qu'il a toutes les qualités d'une bonne rom-com. C'est intense, c'est sensuel, c'est touchant, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ouais, je voulais juste rebondir. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur le Covid, et notamment sur le huis clos. Effectivement, le confinement va servir ce propos de huis clos. Et je trouve que ce qui était intéressant dans le film, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que à chaque moment dans le film où le réel revient dans la vie des personnages, que ça soit l'appel du père, que ça soit le travail, on est vraiment avec les personnages et on n'a pas envie que ça revienne. On a envie de rester avec eux dans l'appartement. Et je trouve que c'est très bien senti à ce niveau-là. Dès que quelqu'un ouvre la porte, on a envie que la referme tout de suite pour continuer à regarder cette histoire. Et
quand il y a la sœur de la
scène est hilarante.
Mais t'as envie qu'elle s'en baille.
Ils cohabitent en fait dans l'appartement d'une troisième personne qui est un personnage qui les connaît tous les deux au départ, et qui est hospitalisé pour un Covid assez lourd, on peut dire. Donc voilà. Oui. Donc on vous encourage à découvrir ce À la joie, disponible sur la plateforme Arte. Et maintenant on va partir au cinéma sur le grand écran avec La vie de ma mère de Julien Carpentier.
Allez, vas-y, aide-moi à finir les bouquins.
Lisa, ta pseudopote.
Sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées.
Je les arrose avec du blanc d'œuf le matin.
Ça va pas ?
Si, si, mais là j'ai une urgence. Maman ?
Mon fils ! Oh ! T'es contente de nous ? T'es contente !
Comment t'es sortie là ?
Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, chérie.
Laurent Agnès Jaoui, dont on se souvient pour son discours au César. Ah, oups, tu n'as pas regardé la cérémonie.
Je crois vraiment que je regarde César.
Rita, oui.
Ukulele.
Il y a des gens qui regardent les Césars encore.
Bah, toute l'équipe, sauf toi,
Laurent, t'as regardé les Césars.
Il y a des gens qui s'intéressent.
Bah ouais.
Il faut croire, tant mieux pour eux. Hein,
Laurent, donc La vie de ma mère de Julien Carpentier, qu'est-ce que ça nous raconte ?
Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est fleuriste, qui est le patron en fait même d'une boutique de fleurs, et qui, alors que bon, il a une vie quand même compliquée parce qu'il a du mal à rendre son business rentable et que c'est quand même une vie difficile, il faut se lever très tôt pour aller chercher les fleurs, quoi. Enfin bref, il bosse beaucoup et qu'il est dans une histoire compliquée avec une amie à lui qui est en train de devenir un peu plus qu'une amie à lui. Sa mère fait irruption dans sa vie, sauf que sa mère est...
Ils ne se sont pas vus depuis deux ans.
Ils se sont pas vus depuis deux ans, et sa mère est bipolaire lourdement, et qu'elle est clairement en train de faire une phase maniaque, alors qu'elle était dans une institution qui était censée s'occuper d'elle. Donc manifestement, elle s'est enfuie. Et on va suivre un peu le périple de ce jeune homme, qui est joué par William Legbill, qui, pour ramener sa mère dans son hôpital, et qui va du coup lui permettre de renouer un petit peu une relation avec elle. Dit comme ça, le pitch me fait horreur et me donne envie de me jeter par la fenêtre.
Et la mère, c'est donc Agnès Jaoui.
La mère, c'est Agnès Jaoui. C'est à peu près l'inverse de ce que j'ai envie de voir au cinéma. Mais j'y suis allé parce que je suis un chroniqueur plein de bonne volonté.
Pas de médaille pour ça.
Et en réalité, bon, on ne crée plus que ça, mais en réalité, j'ai été assez agréablement surpris. Parce qu'en fait, je trouve que dans le genre, ça fait probablement partie de ce qui se fait de mieux, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez réussies. Déjà, premièrement, le casting, qui est quand même assez brillant, où vraiment tout le monde est super, tout le monde est extraordinaire. On a William Legbill qui est génial. Agnès Jaoui en fait un peu des caisses, mais en même temps, son personnage veut ça. Il y a Alison Wheeler qui joue le Love Interest, qui a un tout petit rôle, mais qui est vachement bien.
Qui est toute mignonne.
Comment s'appelle bref, un personnage secondaire qui est vraiment super aussi.
Ça marche vraiment bien.
Tous les personnages sont vraiment cool. Il y a vraiment les acteurs fonctionnent très bien, et je pense qu'en fait eux portent le film et font que le truc est globalement regardable.
Salif Cissé,
bravo à lui. Si vraiment ils étaient pas là, je pense que le film serait un échec colossal et ce serait dommage, parce que vraiment pour le coup, grâce à eux, le truc tient. Je trouve qu'en fait, c'est avec ce genre de scénario, bon, qui est quand même assez classique, hein, d'histoire de relations mère-fille, mère-fils, et comment dire, de trucs un peu de road movie et de problèmes mentaux, machin, c'est toujours très très délicat de réussir à faire de l'émotion sans rentrer vraiment dans un pathos lourdingue, et faire quelque chose qui fonctionne sans qu'on soit vraiment en train de souffler en disant qu'ils en font des caisses. Et je trouve que le film arrive relativement souvent à trouver ce bon équilibre. C'est pas tout le temps. Il y a vraiment des moments, je trouve, quand même un peu lourds et un peu gênants, notamment parce que la réalisation est quand même assez faible.
Et c'est un premier film, d'ailleurs.
Mais c'est un premier film.
De Julien Carpentier.
Mais honnêtement, on n'a pas beaucoup d'idées de mise en scène. Il y a beaucoup de trucs qui sont très appuyés sur les dialogues, alors qu'en fait, avec un peu de mise en scène, on aurait très bien compris tout seul. Et en même temps, il y a des moments hyper gênants sur des plans, sur des fleurs fanées. Enfin, bon, il y a des trucs.
C'est aussi un premier scénario.
Bah écoute, il y a vraiment des trucs qui sont scandaleux et un peu problématique, heureusement pas trop. Et ce que je trouve en fait assez étonnant, parce que je m'attendais pas à ça, il y a quand même pas mal de vraies scènes qui sont très jolies, très réussies, même parfois des moments très cheesy, vraiment un peu abusés, mais qui fonctionnent quand même. Je sais pas un peu par quel miracle il arrive à faire fonctionner ça, mais il y a vraiment des vrais jolis moments, ce qui est pas facile à avoir, ce qu'on attend de ce genre de film, et ce qui est très rarement le cas, à mon humble avis. Et donc de ce point de vue là je trouve qu'il y a quand même un certain niveau de réussite auquel je m'attendais pas. Après voilà, hein, ça reste toujours dans le même genre, comme j'ai dit, il n'y a pas de mise en scène, presque pas, le scénario, il n'y a aucune ambition narrative, donc en fait on a collé un peu des scènes les unes derrière les autres, et puis on s'est pas beaucoup emmerdé plus que ça, enfin j'exagère un petit peu mais pas vraiment, donc en fait c'est vrai que bon, bah, y a des moments de longueur, on s'ennuie un peu, mais je trouve que le film est sauvé par son cast, par quelques jolis moments. Si c'est votre cam et que vous aimez bien ce genre de truc, c'est probablement ce qu'il y a de mieux que vous verrez dans le genre en ce moment, en tout cas. Donc, mais pour les gens qui ont, voilà, que ça repulse comme moi, franchement je
bon, oui, c'est pas. Dispensable, voilà. Pour eux. Rito, t'es un peu plus amatrice toi de ce type de film? La vie de ma mère.
Je pense pas que je sois plus amatrice parce que effectivement j'ai l'impression d'en voir beaucoup en ce moment de ce genre de cinéma, mais effectivement j'y allais plutôt à reculons en vérité parce que pareil le pitch, une maman qui s'enfuit de l'hôpital pour revenir dans la vie de son fils et en fait elle est bipolaire, j'avais vraiment la flemme, mais j'adore Agnès Jaoui donc bon ça aide. Alors le film s'ouvre sur une scène où on nous laisse entendre que les deux que nos deux copains qui ont leur boutique de fleurs vont aller faire quelque chose de shady et un peu illégal alors qu'en fait ils vont à Rungis acheter des fleurs. Et pour moi ça annonce tout le ton du film qui va être un film qui désamorce plein de situations qu'on pense qu'elles vont se finir dans la tragédie ou dans le cliché sur qu'est-ce que ça peut être des jeunes aujourd'hui qui essayent de se sortir et d'avoir un peu de sous, et je trouve que c'est assez bien fait et c'est un joli film de représentation. William Lakeville, tu l'as déjà dit Laurent, mais mon gars, bravo, continue, incroyable. J'espère sincèrement qu'il sera nommé pour un César pour ce rôle, pour lui donner encore plus d'opportunités de faire tout plein d'autres choses. Il est vraiment génial. Agnès Jaoui se trouve un espace pour exister dans le cinéma français en tant que femme de plus de 50 ans, et je trouve ça assez beau parce qu'elle fait confiance à des premiers films du coup, et entre Le Dernier des Juifs et Ici, elle, et donc La Vie de ma mère, elle s'est donné un certain type de rôle d'une mère juive un peu étouffante, rebelle, drôle et un peu cassos par moment, et je trouve que ça lui va très bien. J'espère qu'on va pas du coup la caster que dans des choses comme ça, mais je trouve ça intéressant. Et encore une fois, c'est de très belles représentations des dynamiques familiales et surtout de leur impact sur les autres relations qu'on a dans notre vie. Et parce que tu parlais d'Alison Wheeler, en fait, toute cette relation, ça aurait pu être un truc anecdotique parce qu'effectivement, elle est là que 3 scènes. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on voit à quel point la santé mentale de ta famille peut retomber sur tes relations personnelles par ailleurs.
Et je trouve aussi que le film non seulement parle de ça, mais parle aussi d'un truc qui est souvent occulté de ce genre de film, de ce genre de problématiques, l'hérédité et les problèmes matériels qui vont avec. Ouais. Et la complexité de vivre matériellement dans des cas comme ça.
Payer pour que ta mère
soit. C'est rare et c'est intéressant.
Mais vraiment, payer pour que sa mère soit dans la bonne institution pour pas qu'elle soit déprimée trop. Payer pour que. Parce que sa mère, elle a passé 200 euros d'appel pour l'étranger parce qu'elle a juste décidé de le faire. Ce genre de choses. Et je trouve que j'aime beaucoup le fait que la santé mentale soit traitée de manière aussi frontale et honnête dans sa dimension la plus héréditaire, disons, parce que du coup, ça fait un peu film traité par moment. Et quand même, c'est très pertinent et doux comme représentation parce qu'on voit des moments où il s'inquiète en disant est-ce que moi je pourrais faire vivre ça à mes enfants si je décide d'en avoir ? Est-ce que moi je pourrais faire vivre ça à cette meuf qui me plaît beaucoup, qui de base est mon amie et je sais pas comment gérer la transition vers de l'amour plus charnel, disons. Et donc voilà, c'est parfois très kitsch et poussif, voire tire-larme. Et il y a des dialogues un peu téléphonés selon les scènes, mais c'est un premier film donc je pardonne entièrement. Honnêtement, c'est cheesy à la Xavier Dolan, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais en fait, il y a des moments de musique qui sont très bien choisis, avec des moments où la scène fonctionne par la connexion entre des regards qui s'accrochent entre deux personnes qui s'aiment. Et pour moi, c'est pour ça que je dis c'est cheesy à la Xavier Dolan, mais c'est plutôt intéressant, il faut vraiment soutenir ce genre de premier film, je pense. Donc allez-y, pour Agnès Jaoui, pour William Lakeville et pour la musique.
On va maintenant parler d'un autre film familial, puisque, non pas du tout, puisqu'après La Vie de ma mère, on va s'intéresser à Comme un fils de Nicolas Boukrieff.
T'as planqué quoi sous ta lettre? Il rend ce qu'il a pris, c'est tout!
Arrête!
J'ai l'impression que j'aurais pu les comprendre. Je sers à quoi? Je leur apporte quoi, moi?
Tu déroules ton programme, et tant mieux pour ceux qui suivent.
J'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi.
Oh, police.
Non, je sais pas appeler la police.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un gamin qui est tabassé, il a plein d'hématomes. Enfin, vous
savez. Rita, pour d'obscures raisons, tu as tenu à aller voir le nouveau film de Nicolas Boukrieff, dont on a aimé certains films, dont on a dit parfois du bien. Mais ce Comme un fils, dès la bande-annonce, nous promettait, je sais pas, un cauchemar.
Alors, Vincent Lindon, pour moi, c'est comme Barbie. Dans le sens où, à chaque nouveau rôle, il sauve tout le monde avec comme goal ultime être président du monde. Ici, Vincent est un prof qui démissionne après avoir hurlé sur des élèves dans des circonstances par ailleurs très douteuses et on ne reviendra jamais dessus pendant le film. Personne n'a vu le film, donc je vais être très seule pendant ce moment. Barbie Vincent est ensuite témoin d'un vol à l'arraché par des Roms et se retrouve décidé à sauver la vie de l'un d'entre eux, le jeune Victor qui a 14 ans et qui est visiblement maltraité par sa famille. Barbie Vincent veut lui enseigner la vie par l'école et lui apprendre la grandeur de la France des Lumières. Grandeur de la France des Lumières qui est très grande, je dis pas le contraire. Je dis juste que là, Vincent Lindon en fait des pataquès.
Il est professeur de français ?
Il est, ouais. C'est, je crois, ou d'histoire, je sais pas, enfin un truc. C'est le 14 milliardième film où Vincent Lindon ou un autre homme de son acabit joue quelqu'un qui veut sauver une minorité française.
Il y a déjà eu Welcome en plus avec Vincent
Lindon. Non, mais il y en a tellement, c'est pas possible. Là, j'ai l'impression de ne voir que ça en ce moment. Et en fait, à chaque fois, c'est la même typologie de film où en fait, ils veulent faire en sorte que la personne s'en sorte. Souvent, c'est des enfants en plus. Et ce qui rend la chose excessivement gênante, c'est un film, attention, je vais dire plein de mots très 21e siècle, très anglicisme, beaucoup de trauma porn, à savoir qu'on utilise la violence qui peut être exercée sur les corps de personnes minoritaires en France, en l'occurrence les Roms, pour créer des moments tire-larmes, alors que moi en vrai je m'en fous un peu de cet enfant parce qu'en plus il est odieux cet enfant. Et ensuite il y a des grands moments de white saviorism, à savoir des moments où un personnage blanc essaye de sauver un personnage qui ne l'est pas. C'est tout le propos de ce film. Je n'ai rien compris, c'est nul, mais vraiment c'est absolument un des trucs les plus nuls que j'ai vu cette année, donc j'ai même pas pris la peine. Je me suis concentrée pour écrire toutes mes autres chroniques sauf celle-là, parce que par principe, et après avoir lu le portrait de Vincent Lindon dans Le Monde, je suis en croisade contre ce mec. Parce que ce n'est pas possible, je ne comprends pas, je n'ai eu envie de sauver personne dans ce film, ni le jeune, ni cette posture de prof campée par Lindon. C'est pas un vrai prof, ça n'existe pas un personnage comme ça dans la vraie vie. J'avais envie de lui dire ouin ouin pendant tout le film. Vraiment, je ne saurais pas vous dire assez d'éviter ce genre de cinéma. Il y a ça, effectivement, en ce moment, on voit énormément de films sur des Français qui essaient de sauver des migrants, ou en l'occurrence des Roms, c'est pas un migrant, mais franchement, c'est la même sauce, c'est la même recette de film. Celui-là, c'est un des pires que j'ai pu voir, notamment parce que Vincent Lindon porte le poids du monde, et je crois qu'il a dans son contrat qu'à chaque film, il doit enlever son t-shirt à un moment pour montrer qu'il est encore bien foutu, parce que je n'en peux plus.
Ah, dans Titan, on l'a bien vu, hein.
Mais là aussi, et pour vu le sujet du film, quel est l'intérêt de le voir sous la douche? Mais vraiment, je comprends.
Il prend des stéroïdes là aussi,
un peu. Et on le voit parce qu'il fait rouer de coups à un moment, et ce film n'a aucun sens. Et je pense qu'à l'image de cette chronique qui était complètement décousue, et je m'en excuse, mais c'était sincèrement pour vous véhiculer, je me souviens même plus du pitch, je l'ai vu il y a 3 semaines, mais je me souviens même plus des détails, simplement du ressenti que j'en ai eu, à savoir je suis sortie en disant bah voilà.
Et bah écoute, je tiens juste à te dire que donc en 2009, Philippe Lioret a fait un autre film avec Vincent Lindon qui s'appelle Welcome, et le pitch c'est: pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. Donc je pense qu'on est dans un Vincent Lindon cinématique universe.
Sachez que dans quelques semaines, à ce même micro, je vais vous parler d'un film avec Camille Cotin et Benjamin Biolay, dans lequel Benjamin Biolay reçoit un réfugié afghan, et croyez-moi que je serai là et que j'aurai écrit cette fois-ci. Vraiment, c'est pas possible, le cinéma français, si tu m'écoutes, bon, ça suffit.
Cette fois-ci, on vous encourage pas, on vous décourage même d'aller découvrir ce Comme un fils de Nicolas Boukrieff. Et on va maintenant parler d'un autre film qui s'appelle HLM Poussy de Nora L. Ourche. On écoute la bande-annonce.
T'as guetté les meufs derrière ou pas? Princesse Yasmine, t'as Instagram? T'es grave belle.
Non, toi, t'es Aladdin, et tu vas aller sortir le tapis, vous allez voler.
Faut insulter vos mères pour que vous vous intéressiez.
Ma mère, nique ta mère, donne-moi ton 06, ça passe maintenant?
On fait quoi? Les meufs de maintenant, faut trop les bêtes, tu vas parler avec eux, c'est fini.
Tu fais quoi? Ouais, attendez-moi. Je te jure, y'a rien.
Connard. Manon, tu es donc allée voir HLM Poussy. Oui. Dit comme ça, c'est... Non, mais le titre est bon.
Oui, je crois que c'est un premier film, et c'est, je crois, assez autobiographique de la vie de la réalisatrice. Et donc ça raconte en fait la pression et le harcèlement que vont subir 3 adolescentes qui s'appellent Amina, Djiniba et Zineb, qui habitent en banlieue parisienne, je crois, enfin dans une banlieue, après avoir posté en fait une vidéo de l'agresseur de l'une d'entre elles sur les réseaux sociaux. C'est assez difficile de taper sur ce film en vrai, parce que enfin voilà, il y a toutes les bonnes intentions du monde, mais je trouve que ça n'en fait quand même pas un bon film. Il y a plein de sujets intéressants qui sont brassés. Il y a un féminisme intersectionnel, il y a le MeToo dans les banlieues, en vrai je pense que c'est un sujet. Il y a le rôle des réseaux sociaux dans ce mouvement là il y a aussi un personnage qui a une sorte de double culture, parce qu'elle habite en banlieue mais ses parents genre sont avocats et chirurgiens. D'ailleurs c'est elle qui, en fait, en pensant bien faire, va publier la vidéo de l'agression et en fait exposer ses copines au harcèlement, parce qu'après elle va changer d'établissement. Il y a aussi la relation entre Zineb et donc son agresseur, qui est assez intéressante, parce que c'est un mec en fait qu'elle connaît depuis toujours, et elle a quand même une sorte de tendresse fraternelle envers lui et tout. Enfin bref, en fait il y a plein de sujets qu'aurait pu faire que ça serait un film
post-MeToo en fait intéressant, je trouve, c'est-à-dire qui pousse la réflexion au-delà de juste l'agression sexuelle. Mais en fait, je trouve que le film veut prétendre un peu comme à une forme d'exhaustivité, et ça rend le tout quand même très lourd, très pato, très didactique. Je trouve qu'on a presque parfois un peu l'impression d'assister à un spot un peu de prévention à destination des adolescentes pour un peu les sensibiliser à toute la violence ou les agressions dont elles peuvent être les victimes et les pièges dans lesquels il faut ou pas tomber. Ceci étant dit, je trouve que le trio d'actrices est hyper mignonne. Elles ont une énergie de fou, elles sont super mignonnes entre elles, elles sont en plus magnifiques toutes les trois, je trouve. Mais voilà, après je trouve que les ficelles sont quand même un peu trop grosses pour en faire un film véritablement convaincant, mais bon, c'est quand même plutôt chouette que les gens en parlant bien, on va dire. Voilà.
Félix, est-ce que tu rejoins maintenant? T'as
envie... J'ai l'impression du coup.
T'as envie de défendre ce HLM?
C'est de la merde. Non, non, ouais, oui.
L'enfer est-il pavé de bonnes intentions?
Je vais pas le défoncer. Mais bon, je vais pas non plus dire que c'est super parce qu'effectivement, c'est un premier film. Il y a des erreurs de premier film. Tu parlais des actrices, effectivement, elles sont super. Moi, je trouve que quand même Jenaba, qui est du coup jouée par Medina Diarra, emporte vachement l'eau sur les deux autres. Elle a un espèce de naturel. C'est la
c'est
l'espèce
qui
de.
Agressée, ou c'est... Non, c'est la fille de Bérénice Bejo.
Non, c'est encore
c'est
l'autre. C'est okay. En plus, elle joue un personnage qui est super cool, qui est une espèce de TikTokeuse qui fait du recel de chaussures, etc. C'est assez rigolo. Et elle, pour le coup, effectivement, elle a un espèce de charisme naturel qui est dingue, et toutes les répliques sonnent relativement juste parce que il y a un problème de scénario, d'écriture, de dialogue. Qui sont effectivement un peu appuyés, un peu pas très naturels, parce qu'on sent qu'elle essaie de faire passer des idées. Je pense aussi que les actrices, par moment, sont pas complètement au niveau et un peu débutantes. Et quand bien même, effectivement, elles ont par moment des regards, quelque chose qui fonctionne, et je comprends pourquoi elle les a sélectionnées pour les filmer. Voilà, elles sont pas complètement à l'aise avec certaines séquences, et du coup, il y a quand même une espèce de fausseté tout au long du film qui s'installe et qui est pas forcément très agréable pour le spectateur. Après, effectivement, il y a une énergie qui est hyper cool pour le coup, que ce soit dans le langage, dans la musique, dans même les actrices de manière générale, qui font que quand bien même il y a un côté un peu effectivement tract politique où voilà, on essaie de bien t'expliquer ce que c'est que le consentement, le clitoris, le machin, le truc, à côté de ça, en fait, elles arrivent par leur innocence en fait et leur naïveté à transformer ces séquences en séquences assez cool d'énergie entre, enfin de sororité, que je trouve assez chouette. Et du coup, j'ai très rarement eu cette espèce de sensation de dissonance, un petit peu, où je sens qu'en fait là on essaie de m'expliquer un truc. J'ai plutôt l'impression d'avoir trois élèves qui viennent qui sortent d'un cours presque d'éducation sexuelle ou de sur le consentement machin, et qu'en parlent. Et du coup, il y a un côté un peu on the nose, mais ça fonctionne. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est les personnages masculins, parce que malheureusement je les trouve très en dessous des personnages féminins. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est extrêmement nuancée, et ça c'est cool, mais je trouve que du coup lui notamment, qui est l'espèce d'agresseur, il fait vraiment méchant de dessin animé, comme à chaque fois, j'ai toujours du mal avec cette démarche, parce que je trouve qu'en fait, étonnamment, ça...
C'est un peu contre-productif.
Relation est bien écrite, mais lui est très mal écrit.
C'est ça,
ouais,
exactement.
C'est très bizarre.
Et du coup, c'est dommage, parce qu'en fait, il y a une dernière scène qui est assez... très étrange, et que je trouvais hyper hyper cool, assez assumé et très nuancé, et ouais, lui c'est vraiment dommage, parce que du coup ça a fait un petit peu dévier le récit. Je trouve que si lui en fait, comme lui est faux et on n'y croit pas du tout à ce personnage, en fait je trouve que ça descend un petit peu le récit, parce qu'il est quand même au centre de tout ce qui arrive, et en plus il se passe des trucs quand même un peu abusés, on va pas se mentir, mais le scénario est pas hyper bien structuré, et il y a pas mal de trucs qui sont assez peu vraisemblables, donc voilà, je retiens quand même de ce film quelques petites idées de mise en scène ça et là qui crée des scènes qui sont intéressantes, mais le reste est quand même pas très très abouti.
Salut la démarche, le casting, et peut-être qu'on aura l'occasion de revoir cette réalisatrice, donc voilà. Nora Hirsch, qui a signé ce HLM Pussy. Et on va maintenant parler des deux séries de la semaine. La première, c'est Mr. Spade, créé par Scott Frank et Tom Fontana.
I'm going to ask you some questions, easy questions. Sound good? Off we go.
Je me lève et je te bouscule.
Before you came to beautiful Bozoul,
comme d'habitude,
your talent was other people's business.
No one cares about that Sam Spade, not anymore. I'm happy to step aside. I have a swell life.
And yet, sadly, our pasts are portable.
Wouh, calme dans le studio pour parler donc de ce Mr. Spade. Laurent, tu n'as pas vu Le Faucon Maltais comme la plupart d'entre nous, parce que nous sommes jeunes. Est-ce que tu l'as vu, Alban, toi, Le Faucon Maltais? Non plus. Ah, Rita l'a vu. Comme quoi, ce n'est pas une question d'âge, mais de culture. Laurent, qu'est-ce que ça raconte, Mr. Spade?
Je sais pas si en tant que personne très peu cultivée, du coup, je suis digne. Toujours est-il que Masterspace, ça raconte du coup la suite du Faucon Maltais, encore une fois, que je n'ai pas vu. C'est donc, on reprend le personnage de Monsieur Spade, qui est, je crois, le héros du Faucon Maltais.
Qui est donc Humphrey Bogart et qui l'a
repris, voilà, par, qui Clive repris par Clive Owen. On a les héros qu'on mérite dans l'époque qu'on mérite. Mais du coup, Clive Owen qui joue le rôle d'un ancien détective de San Francisco, détective privé, qui arrive en France au milieu des années 50 pour ramener une gamine à son père, gamine qui est en fait la fille d'un personnage qu'il a rencontré quand il était plus jeune, enfin qu'on connaît pas, qui est peut-être d'ailleurs un des personnages qu'on voit dans le Faucon Maltais, je n'en sais rien, ce qui ça me paraîtrait assez logique. Et donc en fait il essaie de ramener cette fille, mais sauf que son père ne veut pas en entendre parler. Et donc il met cette fille dans un orphelinat et lui s'installe dans le sud de la France parce qu'il a fait la rencontre d'une veuve riche ou quelque chose comme ça.
C'est clairement ça.
Et qui est à son goût et ça lui permet un peu de garder à l'œil sur les sombres machinations qu'il y a dans ce village français qui s'appelle Bozoul.
Et qui est un village très particulier physiquement.
Qui est un village un peu dans les montagnes, très joli d'ailleurs. Et qui va en fait raconter un peu tout un tas d'histoires qui se mêlent entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, comment en fait en gros la société française va prendre ces événements et comment en fait de sombres secrets au sein de ce village vont finir par être révélés petit à petit au sein de l'histoire. Il y a que 4 épisodes sur 6 qui sont sortis, donc on est quand même bien avancé. Mais on n'a quand même pas la fin, donc c'est assez difficile de juger, je trouve, ce genre de série sans avoir la fin, parce que en fait il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur le dénouement et on l'a pas. Mais en tout cas aujourd'hui c'est une série finalement d'enquête assez inattendue en réalité, parce que on n'est pas sur un truc très classique bourrin où on va être à fond direct dans l'enquête et on va genre s'il y a des meurtres, enfin tu vois, on est loin d'un truc très France Télé où il y a des meurtres et donc du coup il faut qu'on les découvre,
oui,
machin.
Un personnage qui meurt dans les 10 premières minutes. Est-ce que ça commence de nuit?
Non, je crois pas. Toujours est-il que on est quand même sur un truc qui est un peu plus élégant, ou voilà, c'est quand même plus de la télé premium. Et donc c'est plus une série qui va jouer sur l'atmosphère et sur l'accumulation de mystères dont on va essayer de démêler un peu les intrigues au fur et à mesure. Et même si là, à la fin du 4e épisode, on commence à comprendre un peu comment certaines intrigues vont se dénouer, il y en a d'autres où on voit pas trop le lien. Et en fait, ma petite intuition personnelle, c'est qu'à mon avis, on n'aura pas. Et que je pense que tout ça va être quand même un peu terminé à la va-vite pour essayer de faire un truc vaguement cohérent. Alors qu'en réalité, bon, on s'est surtout intéressé à faire de l'atmosphère un peu film noir et des dialogues un peu marrants et avec un peu d'esprit et un peu snappy pour que ce soit un peu rigolo et des personnages de vieux un peu truculents et 2-3 trucs comme ça pour construire du mystère et en même temps voilà ce côté presque un petit peu ludique et à l'ancienne de ce genre de cinéma là. Mais j'ai peur en fait que la série ait du mal en fait à se boucler correctement. Et que ce soit vraiment très réussi. En dehors de ça, je trouve quand même que moi j'ai un certain attrait pour le truc. Je trouve ça quand même assez sympathique, d'autant que bon bah c'est plutôt bien joué, c'est plutôt bien fait.
Et ça rappelle les ombres les plus sépia de notre histoire, ou pas?
Ça rappelle un peu les heures les plus sépia de notre histoire. C'est-à-dire que franchement, par contre, la photo est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que je trouve que vraiment c'est une esthétique assez moche, alors qu'il y a quand même un certain budget, parce que la reconstitution est assez belle et qu'il y a quand même des acteurs et un truc, mais franchement juste c'est malheureusement en fait la photo est très laide. C'est peut-être le plus gros défaut, je trouve, de la série. En dehors de ça, moi je suis quand même intéressé par cette petite intrigue et par ce truc. Il y a quand même quelque chose à chaque fois
je vais aller au bout
et je trouve que ça traite aussi de choses dont on n'a pas trop l'habitude de traiter, en tout cas sous cet angle en France, c'est-à-dire à la fois la collaboration et la guerre d'Algérie et comment les gens ont pu en profiter, comment il y a eu des retours qui sont plus ou moins compliqués, etc. L'angle est intéressant, le sujet est pas stupide, mais malheureusement, j'ai du mal à croire que ça se termine si bien que ça.
Alban, toi, ce Mr. Spade,
Bah moi je suis un peu du même avis que Laurent, pas forcément pour les mêmes raisons, mais
donc effectivement... pas le même avis finalement.
Non je suis d'accord. Moi je trouve que la série est quand même un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a un problème de ton en fait. Je sais pas de quoi on va me parler, c'est-à-dire je sais pas si c'est une série humoristique, je sais pas si c'est une série qui imite le film noir, et je sais pas si on doit accorder tant d'importance que ça à l'enquête. Et je suis d'accord avec Laurent là-dessus. Je pense pas que la série nous emmène vers une résolution qui soit vas-y Rita, je t'en prie.
Juste le film justement, l'histoire on s'en fout parce que c'est un film noir et c'est tellement alambiqué qu'on comprend rien. Et à chaque fois, j'ai pas aimé le film de ce fait, et à chaque fois on m'a dit que c'est parce qu'on s'en foutait de l'histoire, c'était le vibe. Voilà, si je peux apporter.
Le vibe est chouette, après je trouve que parfois c'est un peu trop appuyé.
Déjà le pitch, on a rien compris. Hein.
En fait, le truc c'est qu'effectivement, ça fait un peu film d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a des beaux paysages, il y a des beaux costumes, parce que je trouve que Clive Owen est quand même sursapé pendant tout le film, et ça, c'est assez cocasse, il a une belle voiture, c'est assez chouette. Ensuite, il y a quand même des gros problèmes, je trouve, de scénario, et il y a des gros problèmes aussi de direction d'acteur.
Il y a des incohérences.
Il y a des grosses incohérences. Il a quand même, la série a quand même rendu Denis Ménochet inexpressif, et je trouve que c'est quand même, je trouve très
dur,
bon.
Moi, je trouve plutôt pas mal, mais...
Moi, ça me fait juste marrer parce qu'en fait, Denis Ménochet, c'est le flic du village et qui travaille essentiellement avec son frère qui est complètement gogol. Et du coup, c'est une sorte de duo comme ça qui pourrait vraiment valoir le coup et s'attacher à ces personnages. Je trouve qu'on s'y attache très peu. Et voilà, je trouve que pour l'instant, j'étais même étonné en fait à la fin du premier épisode qu'on dévoile l'intrigue, que ça soit une intrigue si violente en fait avec des meurtres assez violent, beaucoup de meurtres, etc. Et je me suis dit, mais où est-ce que la série va et qu'est-ce que c'est en train de me raconter? Je trouve que Clive Owen fait le taf, mais sans plus. Enfin, on sent qu'il a fait le bon élève, qu'il a appris la langue, qu'il essaye de rendre quelque chose de ce personnage-là. Mais voilà, ça manque une sorte de petit supplément d'âme qu'on aurait aimé avoir, surtout sur ce genre de rôle, surtout sur des séries qui sont assez lentes comme ça. Voilà, je trouve que le seul truc qui va sauver la série, le seul aspect qui sauve la série, c'est les dialogues. Je pense que c'est inspiré d'un roman à la base. Il y a des dialogues qui sont très bien sentis, avec des punchlines à chaque phrase que Clive Owen ouvre la bouche, et je trouve que c'est plutôt drôle à ce niveau. Voilà, moi c'est ce qui m'a fait le plus rire en tout cas dans la série, c'est les dialogues. Ensuite voilà, je sais pas si je conseillerais forcément de regarder cette série.
Bah pour les amateurs en tout cas de belles sapes et de bons dialogues, probablement ce Mr Spade. La dernière série dont on vous parle ce soir, c'est The Vince Staples Show. On écoute la bande annonce.
I'm home.
How was your day?
Bailed you out last week.
We ain't got no chicken for you.
That was cool.
Alban, The Vince Staples Show, c'est toi qui nous l'a recommandé.
Ouais.
De quoi ça parle?
Alors, Vince Staples, c'est un rappeur de Californie, je crois.
Californien.
Californien, qui a sorti 2-3 albums et qui se lance. C'est pas sa première apparition sur les écrans, je crois qu'il avait joué dans un film en 2018, dont j'ai oublié le nom. Et là, il se lance dans sa propre série il va mettre en scène un petit peu et ajouter de la fiction à sa propre vie.
C'est une autofiction.
Voilà, un peu.
Très largement. Plus fiction que auto, quoi.
Exactement. Et c'est des épisodes qui sont assez courts, qui font entre 25 et 30 minutes. Et voilà, on voit le Vince Staples dans des situations assez cocasses. La série, c'est une série humoristique, hein, donc ça marche vraiment pas mal sur certaines vannes. Il y a des scènes qui sont hilarantes. C'est presque cartoonesque en fait. C'est des personnages de dessin animé. Vince Staples, surtout dans le premier épisode où il est enfermé dans une prison on l'a pris pour un autre, bref, et il manque de se faire agresser par un co-détenu. Il y a des scènes qui sont vraiment drôles. C'est bien écrit par moments. Ensuite, le gros problème de la série, c'est que c'est très très lent et qu'en fait c'est des bonnes idées de sketch
mais
étiré pendant 26 minutes, et même 26 minutes c'est un peu long. C'est à dire, pour donner un exemple, dans l'épisode 2, Vince Staples se rend dans une banque pour avoir un prêt, finalement la banque est braquée, et on va dire que le ressort comique de l'épisode, c'est qu'il connaît les braqueurs et qu'il va leur parler. Sur le papier, c'est hilarant, et la première fois qu'on les voit discuter entre eux, c'est très drôle. Le problème, c'est que l'épisode dure 26 minutes et qu'ils font que se parler sans faire avancer le récit, sans faire avancer l'histoire de cet épisode-là. Et au bout d'un moment, ça tourne en rond et l'épisode se finit, il sort de la banque et c'est tout. Et je trouve ça dommage en fait, parce que ça dénonce rien, ni politiquement, alors que... Il y a quand même une veine politique dans ce film-là. Comme tu en parlais tout à l'heure, Rita, quand tu parlais du film, il y a effectivement
American Fiction,
ce regard en fait d'un artiste noir américain qui a réussi dans la culture et qui essaye de s'imposer à un plus haut niveau, selon lui, on va dire. Et voilà, je trouve que c'est dommage parce que la série traîne à la fois dans le discours social qu'on lui prête, à la fois dans le discours politique. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un gars qui a du talent quand même, parce que c'est quand même bien écrit. Et voilà, moi je m'attendais vraiment à une série entre guillemets jubilatoire, c'est-à-dire une série où j'allais me faire chier humoristiquement parlant. Et en fait, c'est plutôt drôle. Donc pour ça, on peut la regarder. Après, 2-3 épisodes, blagues, ça suffit. Quoi. Ouais.
Rita, ce Vince Staples Show, toi, tu faisais une comparaison avec American Fiction. Est-ce que ça t'a convaincu aussi?
Alors, c'est un format de série un peu bâtard, hein, si on est honnête, parce que c'est 5 épisodes, c'est censé être une mini-série, donc théoriquement, on n'aura pas de suite. C'est des épisodes de 20 minutes, ce qui me fait me dire, ok, c'est un peu une anthologie, en fait. J'ai jamais vu Atlanta, même si j'ai très très envie, mais on m'a dit que cette série en était un peu l'héritière, parce que c'est pareil, Donald Glover slash Childish Gambino qui fait une série sur le rap, et là, en l'occurrence, c'est une série sur un rappeur, mais le rap est plutôt en arrière-plan. C'est surtout une série sur le personnage qu'il s'est construit sur lui-même, donc Vince Staples, qui navigue dans sa vie. Avec des épisodes thématiques, un peu comme une série d'anthologie. Je veux juste vous donner le ton. Une des choses qui m'a le plus fait rire dans cette série, c'est un moment pendant le braquage où il dit « Si tu fais un casse, t'es George Clooney. Si tu cambrioles une banque, tu es Queen Latifah. » Et personnellement, ça m'a énormément fait rire. Ou autre chose, ne fais pas de demi-tour en voiture si tu es noir. C'est juste une provocation ouverte à la police. Voilà. C'est le ton de la série. Il y a beaucoup de blagues récurrentes sur le fait que les gens qui le reconnaissent vaguement parce qu'il est rappeur, mais il est pas assez connu. C'est pas Jay-Z, donc les gens ils savent pas tout de suite c'est quoi ses chansons. Et donc c'est un ton. Toute la série tient sur un dispositif d'incursion dans l'absurde et ça fonctionne plutôt très bien, je trouve, ces incursions dans l'absurde. Les blagues sont drôles et bien tenues et les commentaires qui sont faits dessus sont assez frais sur la question centrale qui est donc être un homme noir qui évolue aux États-Unis, d'où la comparaison avec American Fiction, en l'occurrence un homme noir qui est rappeur, donc qui va dans un certain des clichés que l'Amérique veut lui apposer, mais qui en même temps est très loin et très enlevé de ça. C'est un homme qui, à chaque fois qu'il est confronté à des trucs insensés, à savoir un braquage, se retrouver en prison, ce genre de situation, il est toujours extrêmement chill et détente, parce qu'on a l'impression que c'est des choses qui nous terroriseraient si elles nous arrivaient, mais lui, il a déjà vu pire. Lui, ça lui est arrivé, il a la flemme en fait. On a l'impression qu'il a la flemme pendant toute cette série, et moi, ça m'a fait marrer. Mais en fait, ce format particulier, très bancal, de 5 épisodes qui sont très détachés, et en plus qui sont divisés en 2 ou 3 chapitres, dont les titres apparaissent à l'écran toutes les 5 minutes, du coup, ça donne l'impression que c'est un sketch, comme tu disais. En fait, c'est une espèce de film à sketch qui aurait pu fonctionner comme Tout Simplement Noir. On en revient à ce film-là. Je pense que s'il en avait fait un vrai film avec plus de sketch et un peu plus court et plus tenu, du coup, ramassé sur eux-mêmes, ça aurait peut-être donné un effet un peu plus intéressant, je pense, sur le rythme, parce que là, effectivement, on s'ennuie parfois. Et s'ennuyer dans des épisodes de 20 minutes, je pense que c'est un peu compliqué.
Ouais, c'est une prouesse.
Ouais. Et en fait, ça me rend triste parce que Netflix, déjà, met pas en avant la série, ne fait pas de com, et en plus se permet de ne pas bien produire, à savoir dire juste au mec, fais pas 5 épisodes de 20 minutes, fais genre peut-être 10 épisodes de 5 minutes ou un film à sketch. C'est très dommage, donc pour moi, c'est un peu raté, mais c'est quand même assez. C'est très rigolo et ça me donne envie d'en savoir plus sur ce mec, du coup, que je ne connaissais pas avant.
Félix, est-ce que toi, tu connaissais Vince Staples?
Oui, je connaissais Vince Staples. Et la série me fait à peu près le même effet que sa musique, c'est-à-dire que c'est... c'est-à-dire que je vois les influences et que du coup je suis pas hyper emballé, enfin bref.
pull up.
On débattra de musique après, non, mais c'est-à-dire que en fait même...
L'émission d'après est musicale.
Même, exactement, je fais partie de Tout Foutre en l'air.
Non, c'est La Fresh List.
Ah, bon, pardon. Est-ce que je peux faire ma chronique?
Fin d'émission catastrophique.
En fait, je trouve qu'effectivement, bon, y a un manque de rythme qui est évident, vous l'avez dit, et je suis complètement d'accord avec vous. Surtout, moi, je trouve que les personnages, les situations, tout ce qu'il essaie de créer d'absurde, en fait, je l'ai déjà... Alors, j'ai pas vu les sketchs en eux-mêmes, je veux dire, il y a une originalité, et d'ailleurs, il m'a fait sourire, même rigoler par moments sur certaines blagues, et tant mieux. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu une redondance dans son personnage, justement, de mec très détaché, peu importe la situation, qui fait toujours un peu la gueule. En fait, je l'ai déjà un peu vu dans des films, j'ai déjà un petit peu vu dans des séries. J'ai pas forcément les noms en tête, mais je veux dire, c'est un personnage qui est assez classique, qui fait même presque personnage muet... Buster Keaton et j'en passe, et du coup j'avoue que je trouve pas ça non plus très original, il va pas venir non plus me prendre là-dessus, et même de manière générale tous les sketchs qui sont même dans la prison, le fait que d'un coup il se fait agresser, en tout cas il se fait menacer par un détenu qui est hyper baraque machin, tout ça c'est marrant,
c'est mais attendu. Je veux
dire, encore une fois c'est assez attendu, ouais. Et de manière générale je trouve que tout est assez attendu, et même s'il y a des situations qui sont justement très absurdes dont le braquage que je trouve très rigolo, en fait effectivement non seulement il y tire, mais en plus il arrive pas à vraiment sujet de la folie, alors que moi je m'attendais justement à un truc hyper barré, mais en fait pas plus que ça, et notamment sur après le côté critique, on va dire sociale, et ce que c'est que d'être un homme noir aux États-Unis, c'est pareil, en fait, c'est très en toile de fond, c'est assez ledge, et à la limite, pourquoi pas, mais du coup, c'est pareil, j'ai un peu regardé tout ça, je me dis, bon, il parle pas vraiment de lui, il parle pas vraiment justement de sa condition de d'homme noir aux États-Unis, du coup, au final, quel est l'intérêt, pourquoi je regarde ça, en fait? Donc, du coup, si je peux vous conseiller une série qui n'a rien à voir, pour le coup, parce que c'est pas une fiction, mais qui aborde justement ces thématiques avec humour, c'est une série aussi réalisée par un rappeur qui s'appelle Killer Mike, qui du coup a gagné un Grammy d'ailleurs très récemment, et qui a fait une série qui s'appelle Trigger Warning with Killer Mike, qui est sur Netflix, et c'est une série qui est pour le coup passionnante sur justement la question d'être un homme noir aux États-Unis, et il va venir vraiment creuser avec humour énormément de thématiques et de sujets sociaux. Bref, voilà, donc ça c'est peut-être un peu plus intéressant, et sinon peut-être penchez-vous sur tout l'univers visuel de Tyler, The Creator, ça serait peut-être plus intéressant que Vince Staples. Voilà.
Ils bossent ensemble, je crois.
Je sais qu'ils bossent ensemble.
Mais c'est bien, ça me fait une transition parfaite pour l'émission après Extérieur Nuit, qui est donc Freshly, vous restez sur Radio Campus Paris. Nous, c'est terminé pour cette semaine, on remercie Axel qui a réalisé l'émission, et bah bonne soirée.
Ah, voilà, cardio. Allez.